Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2 sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Nejma Kassimi autour de son livre Sensible, paru aux éditions Cambourakis, le 3 mai 2022, à la librairie Terra Nova.
Bonsoir à toutes et tous. Et merci donc d'être là et merci à Nejma Kassimi de venir de loin, de Zurich, spécialement pour nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi aux éditions Cambourakis qui nous aident à organiser les rencontres avec leurs auteurs et autrices. Merci à Adèle Cassignol, donc, qui est chercheur en littérature et critique littéraire et qui fait pour nous un certain nombre de modérations depuis quelques temps. Merci beaucoup. Donc cette rencontre prend place dans le cadre d'un cycle organisé autour de l'Algérie et puis des rapports que l'Algérie entretient avec la France, et puis les Algériens et les Français entretiennent avec cette question-là. Donc, on a déjà eu une rencontre avec Malik Haral autour d'un ouvrage qui s'appelait Algérie 62, sorti à la découverte. Et la semaine prochaine, on reçoit Hassen Belmessous pour un livre qui va parler de l'histoire des banlieues populaires, qui sort chez Sileps. Et début juin, on reçoit Mathieu Rigouste pour une réédition de son livre. Donc son livre Un sale héros, le peuple, préfacé ou postfacé, je ne sais plus, par Kaoutar Archi, qui sera présente avec lui. Donc ça clôturera le cycle Algérie. Et à l'occasion de la dernière rencontre, on devrait avoir un catalogue. On a déjà édité deux catalogues. Là, c'est la troisième édition qui sera entièrement dédiée à l'Algérie. Et on sera heureux de vous le présenter à ce moment-là. Et on a ici des étudiantes de la licence pro qui nous ont aidés à constituer ce catalogue. Et voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne rencontre. Merci encore d'être là. Et je passe la parole à Adèle. Merci.
Merci Fabrice. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Nejma. On va donc parler de Sensible. Qui est votre premier livre. C'est un livre renversant. Enfin, moi, en tout cas, il m'a renversée, à travers lequel vous offrez une relecture de votre histoire familiale et de l'histoire de la France-Algérie de l'après-guerre. Alors, quand vous dites après-guerre, vous ne parlez pas de 39-45, mais de 54-62, soit la guerre d'Algérie ou la guerre d'indépendance algérienne. Vous revenez donc sur les histoires que l'on a en héritage, dont on ne sait parfois pas grand-chose et dont surtout on ne dit rien. Et votre texte est là, il me semble, pour conjurer le silence criant de ce qui insiste malgré tout et qui ne s'efface pas. C'est d'ailleurs le silence, un sujet que vous traitez dans les premiers chapitres du livre. Sensible est un texte adressé, qui apostrophe, qui somme, qui crie et qui prend parti. C'est aussi un texte joueur, pétri d'humour et d'esprit. C'est un texte réflexif qui s'interroge sur ses conditions d'existence et sur le geste qu'il a vu naître. Votre texte est un long flashback chaotant qui agrège de multiples fragments et réorganise à la fois le récit de votre histoire personnelle et des récits plus officiels sur ce qui a été la colonisation puis l'immigration algérienne. Et vous ne mâchez pas vos mots. Votre geste d'écriture est une vigoureuse empoignade. Il faut faire entendre, il faut faire voir. Et votre texte, D'ailleurs, s'ouvre sur une interpellation. Venons-en aux faits, voilà, qui nous cueillent comme ça dès la première page. Nejma, vous êtes née en Algérie d'un couple dit mixte, d'une mère française professeure de mathématiques et d'un père algérien chirurgien. À vos 2 ans, votre famille déménage pour s'installer dans la France des années 1970. Vous affirmez que dans votre enfance, vous n'étiez pas une arabe. J'aimerais commencer par ça, par le racisme intériorisé, l'aveuglement enfantin, la surdité adolescente aux discriminations, et peut-être par un petit extrait sur ce sujet. Quand je vous dis que les choses se sont gâtées dès l'instant où Nejma est reparue, il faut me croire sur parole, car je ne compte pas expliquer combien l'étudiante d'alors eut tant de mal à trouver un logement malgré la caution de ses parents, car je ne compte pas vous raconter comment un professeur de philosophie d'Hippocagne, le visage enfoui dans ses mains, s'est lancé dans une diatribe émue sur la guerre d'Algérie, l'apprenant à témoin. « Mademoiselle, vous m'arrêtez si je dis une bêtise. » Ni comment son directeur de maîtrise, sur la métamorphose des idées platoniciennes opérées par Plotin, l'a gratifié d'un « Vous parlez bien français, dites-moi ». Je n'ai pas l'intention de compter sur vous, de compter pour vous les innombrables fois où on lui certifia que toi c'est pas pareil, mais les autres. Je ne compte pas plus faire la liste des vexations en tout genre qu'elle a eu à subir pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, elle ne les entend pas. Non, je ne les entendais pas. Ou pour le dire plus justement, j'entendais, mais sans saisir de quoi il s'agissait. Donc vous écrivez l'histoire de cette petite fille de la classe moyenne que vous définissez comme coincée dans une histoire dont elle n'a que faire et qui lui colle au basque. D'où vient la nécessité vitale, une urgence assez viscérale, de reprendre le fil de ces histoires?
Alors, ça m'a pris au dépourvu, en fait. J'étais persuadée que jamais je n'aborderais ce sujet. J'écris, alors c'est mon premier texte publié, mais ça n'est pas mon premier texte écrit. Et dans mes ouvrages précédents, j'ai écrit des romans qui n'avaient rien à voir avec le sujet des origines, de l'Algérie, etc. Et je m'en tenais le plus éloignée possible. Je dis à un moment dans le texte, on ne choisit pas ses batailles. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est il y a 2 ans, hein, quand j'ai commencé à écrire ce texte, j'ai été prise, malgré moi, par l'écriture de ce texte. J'ai été prise au dépourvu, quasiment. Et puis ce texte est arrivé par effraction, du fait d'une réalité française que je trouvais... difficile à voir. Je vis à l'étranger, je vis à Zurich, et je m'étais tenue à l'écart de ces questions d'immigration, d'origine, etc. Et j'ai vu qu'en France, ce sujet était non seulement toujours prégnant, récurrent, mais de plus en plus grave, de plus en plus présent. Et donc j'en suis venue à écrire ce texte alors que j'étais certaine que pour moi, le sujet était clos. J'avais fait ma vie ailleurs, j'avais quitté la France à 25 ans. En quittant la France, j'avais quitté tous les problèmes afférents aux origines. Et je pensais que voilà, j'avais tourné la page et que pourquoi j'irais écrire sur ce sujet-là. Et c'est au moment d'abord des Gilets jaunes, et ensuite, en revenant sur un fait de violence policière qui concerne l'affaire Théo, que j'ai été prise par l'écriture de ce texte en me disant « c'est pas possible, je dois faire quelque chose, quelle peut être ma part, quelle peut être ma contribution ?» Et ce texte est arrivé comme en un flot continu, et tous les souvenirs sont arrivés dans un flux que j'ai pas maîtrisé du tout, en fait.
C'est l'histoire de trop qui a déclenché, qui a ouvert une porte.
Absolument, absolument. C'était les vannes se sont ouvertes. Et en fait, j'ai écrit ce texte très, très rapidement. Je décris dans Sensible la manière dont j'ai écrit ce texte, c'est-à-dire quasiment jour et nuit, constamment. C'est-à-dire que quand j'écrivais pas, je réfléchissais, je je lisais, je et ce texte est venu d'une manière comme s'il avait été écrit en fait les 30 dernières années et que j'avais plus qu'à les prendre quasiment sous la dictée en fait.
Donc il a fallu retourner y voir ou comme le dit un des titres retourne-y voir. Vous reprenez le fil depuis le 20e siècle pour écrire donc l'histoire de l'immigration algérienne, ce que Louisa Yousfi nomme la longue histoire de domestication des barbares. Cette histoire qui commence après les deux guerres mondiales, après les Trente Glorieuses, après la guerre d'indépendance. Elle commence, dites-vous, en 1962 avec le tour de passe-passe par lequel l'indigène devient officiellement immigré. Ce retournez-y voir s'adresse à vous, il s'adresse à nous aussi. Qu'a-t-il été nécessaire d'aller vraiment voir ?
En fait, ce qui pour moi était nécessaire d'aller voir, c'était notre histoire commune à tous. C'est-à-dire l'histoire, quand ce professeur de philosophie me dit « Arrêtez-moi si je dis une bêtise » en évoquant la guerre d'Algérie, à ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi il s'adresse à moi plutôt qu'à toute la classe entière. C'est-à-dire que je comprends qu'on est tous, au moment de l'écriture du texte, hein, je le comprends plutôt, je comprends qu'on est tous, après la guerre d'Algérie, on est tous des enfants d'après-guerre, les gens de ma génération. C'est-à-dire que ce terme d'après-guerre qui avait été coopté par la génération précédente, ceux qui étaient nés après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, nous, on n'avait pas été perçus, on ne s'était pas perçus nous-mêmes comme des enfants d'après-guerre. Et pourtant, c'est ce qu'on a vécu. On a vécu le fait d'avoir porté les traumatismes de la génération précédente qui avait vécu cette guerre. Et il fallait aller voir, pour moi, qu'est-ce que ça signifiait d'avoir été tous des enfants d'après-guerre, qu'on ait des origines maghrébines, algériennes, ou qu'on soit des enfants d'appelés, en fait.
Oui, c'est vraiment un retour sur l'histoire de la France-Algérie, presque un seul mot agglutiné à chaque fois, dans chaque chapitre, on retourne sur cette relation indissoluble, d'une certaine manière. Et il s'agit de faire le jour sur des choses qui sont mal connues, car souvent non transmises par l'histoire. Je vais prendre juste quelques exemples. Le rôle de Simone Veil, le rôle de ceux qui ont résisté à la barbarie et dont vous rappelez les noms, Noël Favrelière, Maurice Audin, Fernand Yveton et tant d'autres. Ça nuance, ça complexifie, ça humanise aussi beaucoup. Quelle est la plus grande découverte que vous a permis ce travail ?
Oh, il y en a eu beaucoup. En fait, la plus grande découverte, c'est la puissance du déni. C'est la puissance de ne pas voir l'évidence. Par exemple, quand vous citez Favrelière, Yveton, de voir qu'il y avait des Français qui s'étaient positionnés par rapport à la guerre d'Algérie et qui avaient refusé cette guerre d'Algérie. Mais au-delà, après la guerre, j'évoque ces Français qui sont restés en Algérie après l'indépendance. C'est-à-dire qu'on avait, je parle du fait qu'on a cette image-là, et vous avez dû la voir dans les journaux qui ont retracé l'indépendance ces derniers mois. On voit encore ces photos des Français d'Algérie sur les bateaux avec leurs valises qui quittent le pays qui s'en vont dans une espèce de panique parce qu'ils quittent leur vie et c'était la seule image que j'avais en fait, ces Français qui avaient dû quitter l'Algérie et quitter toute leur vie avec leurs petites valises. Et ce n'est que des années plus tard que je comprends qu'en fait les Français de mon histoire, que ce soit ma maman, que ce soit ma marraine ou mon grand-père, c'est-à-dire le Français qui a adopté mon père, eux n'ont pas du tout quitté l'Algérie au moment de l'indépendance. Ils sont restés en Algérie et ils n'étaient pas les seuls. Il y a eu beaucoup de Français qui sont restés au moment de l'indépendance et qui sont restés en Algérie sans qu'ils aient à connaître de danger quelconque. Dans le cas de ma maman, elle était étudiante à Toulouse d'ailleurs. Alors j'étais très touchée aujourd'hui de parcourir Toulouse et de voir la ville où elle a fait ses études. Et quand l'indépendance est déclarée en 62, elle prend ses valises et elle part rejoindre l'homme qu'elle aime à Alger. Et elle va donc à contre-courant de ce flot de Français qui arrive dans la panique. Elle prend ses valises et elle part s'installer en Algérie. Et ça, c'est des choses que je n'avais même pas envie, que je n'avais pas vues. C'est mon histoire et je ne sais pas la lire. C'est-à-dire que je vais la lire quasiment au moment où j'écris Sensible.
Oui, ça doit être ça qui rend la chose aussi prégnante aussi, cette espèce de découverte permanente sur même ce qui est le plus proche de soi-même.
C'est, en fait, dans l'écriture du texte, très régulièrement, je veux que les lecteurs partagent avec moi les découvertes que je fais au moment où j'écris. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a des adresses régulières et que j'essaye de faire vivre aux lecteurs qui m'accompagnent dans ce mouvement-là, parce que l'écriture met à jour des mécanismes, des symboliques dont je prends conscience en les formulant. Et j'accompagne, je veux qu'on fasse ce chemin-là ensemble, le lecteur et moi écrivant, qu'il prenne la mesure des découvertes que je fais et que chaque chose prend son sens. Les choses se mettent tout d'un coup à leur place et chaque chose s'éclaire et prenne leur sens.
Je crois que les moments où cette révélation d'un sens est vraiment prégnante, c'est... quand vous parlez de la lecture et de la littérature, ça trame tout le livre. Il y a donc un premier choc qui est la lecture de Des Hommes de Laurent Mauvignier, paru en 2009 chez Minuit. Puis vous revenez très longuement sur Albert Camus, ou plutôt sur L'étranger, ce roman paru en 1942, et sur la réponse que lui a adressée Kamel Daoud en 2013 avec Meursault contre enquête. Mais vous vous attardez aussi sur Poil de carotte de Jules Renard, qui est peut-être moins attendu, et plus brièvement, mais non moins puissamment, en tout cas pour moi, sur Nejma de Kateb Yassine. Vous dites, il faut faire confiance aux écrivains, ils se tiennent à l'écart, puis surgissent de nulle part pour déchirer la carte du monde. On est là, bien confortable, somnolent, plus rien ne surprend, quand soudain, un écrivain nous fait sursauter. Alors moi, avec votre texte, j'ai beaucoup sursauté. Je crois que c'est bon signe. Ce qui m'intéresse là, c'est la manière dont, à travers vos lectures, il y a déjà le déploiement de plein d'expériences intimes, parce qu'on se lit à travers les livres que l'on découvre, mais il y a aussi toute l'inscription des seuils de compréhension. Alors, première lecture, j'ai lu ça. Deuxième lecture... Ah, mais j'ai enfin compris. Et c'est très fort, ça. C'est extrêmement puissant. C'est des choses qui s'écrivent rarement. À quoi sert la littérature, alors, dans cette compréhension d'une histoire à la fois personnelle et plus globale ?
En fait, j'ai l'impression que la littérature nous fait toucher du doigt ce qu'on sait déjà. Et c'est-à-dire, c'est toujours cette question du déni, en fait. On sait les choses, mais on ne les a pas encore formulées. Quand je vais chercher Poil de carotte, mais je le fais en toute simplicité, je me dis, c'est quoi quel est le portrait, par exemple, du mal-aimé dans la littérature ? Et je vais, je cherche, je pense à Viper au Point, des livres qui traînent un petit peu à la maison. Et je me dis, ah, Poil de carotte, est-ce que je trouve quelque chose ? Comment le mal-aimé est campé dans la littérature ? Et au moment où je lis Poil de carotte, les bras m'en tombent. C'est-à-dire que je constate qu'on peut quasiment retranscrire et plaquer le personnage de Poil de carotte sur l'image de la jeunesse d'origine issue de l'immigration, je ne sais pas comment dire, typée en fait, avec un nom étranger, et de toute cette jeunesse stigmatisée. Et je me rends compte que, en fait, quand on décrit, quand on suit le parcours de Poil de carotte, on pourrait mettre à la place un petit gars, un petit Mohamed, un petit... un petit gars issu des banlieues, comme on les décrit de manière caricaturale. Et je découvre avec la littérature en fait que les choses sont toujours déjà dites et qu'il suffit d'aller les voir et, comme vous dites, hein, d'aller chercher des niveaux de compréhension. À chaque fois on lit, on retrouve des niveaux de compréhension différents.
Oui, comme quand déjà il y a plusieurs portes d'entrée dans un texte, mais ça nous renvoie aussi des choses différentes à différentes périodes de notre vie. Et je crois que c'est ce qui est le cas le plus exemplaire, c'est les relectures successives de L'étranger, qui est en plus un monument, vous le rappelez, de la littérature française que tout le monde doit lire, etc. etc. Et vous soulignez bien ça, cette nécessité de relire pour mieux se comprendre. Il y a un autre lien à la littérature que je trouve extrêmement puissant, c'est la nécessité d'opérer des déminages sémantiques. Je crois que j'ai un tout petit extrait à nouveau pour faire entendre la voix. C'est-à-dire que tout au long du texte, il y a des petits points lexicaux sur ce que les termes signifient. Non pas ce qu'ils signifient dans l'absolu, mais ce qu'ils signifient dans leur contexte ou dans leurs différents contextes historiques. Par exemple, le mot pied noir ou le mot bon français. Qu'est-ce que ça veut dire être un bon français à un instant T en France sur certains sujets? Et il y a une attention extrêmement fine à la désuétude de certains thèmes, de certains termes. Donc des mots qui sont, comme on ne les utilise plus, ils sont voués à disparaître, mais en fait, ils sont très signifiants et ils continuent de renfermer des polysémies très complexes qui peuvent nous éclairer. Donc je lis juste un tout petit extrait du chapitre qui s'appelle « Les Mohamed ». Revenons un instant à la liste des insultes évoquées peu auparavant. Rien ne vous a interpellé? Alors je vous la redonne. Bougnoul, raton, melon, bourricot, arbi, Mohamed, bico, bougna, morico, mouker, gris, crouille. Vous voyez maintenant. Il y a aussi un prénom dans cette liste. Mohamed, un prénom qui, par extension, désignera bien vite tous les Arabes de France et de Navarre. Momo, quand on y met une touche de condescendance. Qui n'a pas eu un brave petit Momo dans son école? Que le Mohamed, l'arabe dont il faut se prémunir, soit devenu le dangereux mahométan, c'est une glissade sur laquelle je pourrais revenir ensuite, mais pour l'heure, ce n'est pas le caractère religieux de l'arabe, forcément religieux, qui est visé là, c'est son origine. Celui qui est originaire d'un pays qui ne lui appartient pas, l'indigène donc. Puis celui qui est originaire d'un pays dont il revendique outrageusement l'indépendance, le Felaga. Et enfin celui qui, originaire d'un pays devenu indépendant, a traversé la Méditerranée, l'immigré. L'arabe, c'est donc celui qui a mis le bordel dans la douceur des jours, parce que tous vous le diront, il fait quand même bon vivre dans ces trois départements français d'outre-Méditerranée. Mohamed est ainsi devenu un prêtre nom du fauteur de troubles, car quand il y a du rififi quelque part, on le cherche. Ce Mohamed, qui devenu substantif, a perdu sa majuscule. Un Mohamed quand un prénom devient une insulte. Et je peux vous dire que dans un tel contexte, s'appeler Mohamed en France, c'est pas du gâteau, ça hérisse les oreilles et ça plisse les nez. Et donne des envies de le voir retourner dans son pays, car à partir de la fin des années 70, on voudrait voir les Mohamed, avec un S donc, puisque les noms communs s'accordent en genre et en nombre, retourner dans leur pays. On veut pourtant aussi qu'ils restent, qu'ils travaillent, qu'ils prennent en charge les basses manœuvres, quitte à leur filer le coup de pied de l'âne, le sabot, prêt à leur claquer le museau. On voit ici dans ce serait comme par sédimentation et on passe une couche. Il y a cette construction des divers sens que les mots peuvent prendre dans différents contextes. Évidemment, ici, comment on construit une insulte que je trouve extrêmement, extrêmement forte.
En fait, pour revenir sur cette histoire du Mohamed, hein, cet homme inquiétant qui met le bordel dans les beaux jours. En fait, je reviens sur le fait que il y a eu dès le début du XXe siècle une fabrique du personnage de l'arabe. Ce personnage inquiétant dont on doit avoir peur, qui est Et ça, je parle en fait des études d'un psychiatre à l'université, à la chaire d'université d'Alger, qui va théoriser sur l'indigène et qui va expliquer que l'indigène, l'arabe, est un abruti congénital, c'est comme ça, particulièrement violent. Enfin, faut un peu se méfier. On sait jamais trop ce qui peut arriver. Et donc, c'est l'époque où le XXe siècle, hein, c'est l'époque où on va théoriser sur les races. Il y aura la Seconde Guerre mondiale où on va théoriser sur les races, sur la race juive. Et c'est à ce moment-là que ce personnage de l'arabe va être fabriqué. Il va être admis par tous, même par les personnes concernées. C'est-à-dire qu'il y a une intériorisation hein, de la dévalorisation. Et ce personnage, cet arabe inquiétant, va imprégner les esprits, donc déjà au début du XXe siècle, va imprégner les esprits, et on en retrouve aujourd'hui les traces. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui arrive de nulle part, c'est quelque chose qui a été construit et qui nous habite tous autant que nous sommes. Et je décris même que j'ai été victime de cette image-là, c'est-à-dire que comme on disait à l'époque, quand j'étais petite fille, qu'il fallait se méfier, les faits divers, enfin, c'était toujours un personnage. Je parle de ce personnage de 18 à 45 ans, d'origine maghrébine, qui était toujours fauteur de troubles et voire dangereux. Eh bien, j'ai grandi avec cette image-là. Et on avait peur, les gens avaient peur, tout le monde avait peur des Arabes. Comme ça continue aujourd'hui d'ailleurs, on continue à créer ce personnage-là. Au point que, alors que je vis dans une petite ville de province, je rentre chez moi, je rentre à la maison, je rentre de l'école, et je vois un Arabe dans la rue et je traverse, je change de trottoir. J'en ai peur. Parce qu'on était vraiment conditionné par cette image, ce personnage effrayant. Et je raconte que donc j'en ai peur. C'est un personnage effrayant. On a été bien conditionné. Je rentre à la maison, me réfugier auprès de mon père. Et là, tout d'un coup, je réalise, mais c'est le même. J'ai le même à la maison. Et c'est à ce moment-là que je réalise le personnage social qu'est mon père. Je le réalise évidemment dans la honte et dans la stupéfaction. Je comprends qu'on est tous imprégnés de cette image-là, que ce soit pour moi c'est étonnant puisque mon père est d'origine maghrébine, mais mes petites copines, mes petits copains, on est tous grandis dans cette peur-là de l'arabe, et cette peur qui continue, qui est entretenue. L'origine de ce livre, c'est aussi de se dire bon, ça a été une époque, c'était après la guerre, c'est peut-être compréhensible que ce personnage a fait peur, mais avec le temps, ça va passer. Et c'est ce que j'ai pensé. J'ai pensé, les choses vont finir par se calmer, les choses vont s'arranger. Enfin, il y avait une espèce d'optimisme comme ça, basé sur rien. Et d'où l'origine de ce livre, c'est que j'ai compris que les choses ne se calment pas. Enfin, on l'a bien vu, on a eu des élections... Récemment, les choses ne se calment pas, mais empirent. C'est-à-dire que ce personnage est de plus en plus prégnant et de plus en plus utilisé pour cliver la société. Et je veux rajouter que c'est un personnage, évidemment, c'est la fabrique de l'arabe, c'est un personnage fantasmatique qui ne correspond à rien. Enfin, c'est une créature. C'est une créature entretenue pour donner des messages clivants, évidemment.
Et cette réflexion donc sur la construction d'identité fantasmatique, elle est surtout liée à la réflexion que vous menez sur l'injustice, ce que vous appelez ce poison qui rend malade et évidemment qui tue et qui continue de faire des ravages. Ce qui m'a frappé dans le texte aussi, c'est que le sensible est ponctué de chants, enfin ce que j'appellerais des chants de la patience. Il y en a quatre, si je ne me trompe pas. Ce sont des pages qui disent patience, qui récitent en litanie des prénoms. À qui s'adressent-ils ces chants de la patience ?
Ben, ils s'adressent à cette jeunesse pour laquelle j'ai beaucoup de peine de l'avoir prise dans des problématiques où j'ai espéré que ce seraient des problématiques d'autrefois et de voir qu'elles sont actuelles. Et ce texte, il s'adresse aux jeunes gens qui sont toujours envisagés selon un prisme stéréotypé, c'est-à-dire dont ils ne peuvent pas se défaire. Et ma colère venait du fait que quand je vois que je viens de la classe moyenne, j'ai fait des études supérieures, j'ai une maman française, c'est très important, j'avais des coussins de protection autour de moi qui n'ont pas suffi. C'est-à-dire que j'ai été exposée et j'ai été mise à mal par ces problématiques-là, au point que ça a été pour moi un bonheur de quitter la France. J'ai pas quitté la France à cause de ces problèmes. J'ai quitté la France parce que j'ai rencontré un homme étranger et que je l'ai suivi. Je l'ai suivi en Suisse et puis après, on a voyagé plus loin. Mais en quittant la France, tout d'un coup, j'avais une révélation. J'avais la sensation nouvelle que je pouvais vivre en dehors de ces problématiques-là et de ces sujets d'origine maghrébine, etc., qui m'ennuient au plus haut point. Et j'ai découvert aussi qu'il suffisait, quand je suis en Suisse ou partout ailleurs dans le monde, il suffit que je dise bonjour, je m'appelle Nejma Kassimi, je suis française, pour que les gens me croient. Ça suffit. Les gens accepte ce que je leur dis à partir du moment où je le dis quand je ne suis pas en France. Et quand je suis en France, il a fallu, toutes ces dernières années, en fait, quasiment montrer patte blanche, expliquer. Si je dis je suis française, on me dit mais française combien, comment, d'où? C'est-à-dire qu'on me demande, et j'explique ça dans le texte, hein, qu'on me demande sans arrêt de justifier, d'expliquer d'où vient la francité dont je parle. Et donc j'ai espéré que j'avais traversé était daté, était d'une époque, était de ce temps d'après-guerre, et que les jeunes gens n'auraient plus à vivre ça. Et ils continuent évidemment à le vivre, je le vois, et donc c'est à eux que je m'adresse. Et le mot qui m'est venu, c'était le mot patience. Je ne sais pas pourquoi je l'ai accepté. Il y a beaucoup de choses que j'ai acceptées dans ce texte qui me sont venues et que je me suis dit, ben voilà. Déjà, l'ordre des textes, c'est pas un livre que j'ai recomposé après coup. J'ai accepté les textes comme ils venaient, dans leur ordre. Et ce mot de patience, il m'est venu et je me suis dit, ben voilà, c'est ce que j'ai envie de leur dire, de prendre patience, de prendre leur mal en patience. Mais d'une certaine manière, je me disais, mais c'est terrible de leur dire ça. Combien de temps ils vont prendre ce mal en patience? Et en fin de texte, j'ai eu envie de leur dire autre chose, c'est-à-dire de leur dire que ils auraient besoin de courage, qu'il leur en faudrait et qu'ils en avaient déjà énormément, du courage. Donc ces textes, cette adresse qui passe par la patience finit par le courage.
Oui, tout à fait. Il y a quelque chose même dans la litanie, certes, mais qui ouvre quand même. C'est pas juste de manière contrite et tout ce que vous décrivez sur le fait que les générations précédentes avaient dû se faire toutes petites. Elles aussi, peut-être dans l'attente que peut-être quelque chose change. Voilà, là non, ça ouvre sur quelque chose effectivement de plus combatif, et je crois que la combativité part aussi de cet agencement de fragments extrêmement percutantes et un peu abruptes, parce que c'est vrai qu'on passe d'un sujet à l'autre, hein, c'est tout à fait, tout est cohérent, mais il y a quelque chose qui malmène, on s'installe pas, on va pas sommeiller dans ce texte. Et le patience, c'est... il y a quelque chose de très doux dedans aussi, mais ce n'est pas pour rester ni soumise, ni même passive. Il y a quelque chose qui enjoint à prendre la plume.
Bon, je leur demande aussi d'avoir de la patience de lire, c'est-à-dire de suivre ce chemin dont je parle et de suivre mon chemin, d'essayer de comprendre comment les choses en sont arrivées là aujourd'hui. La génération que je représente, moi je l'appelle, c'est la génération de l'exemplarité en peine perdue. On est cette génération qui s'est donné de la peine, qui a joué le jeu en fait. Et puis il y a eu la génération qui a suivi, qui était une génération plus combative, plus énervée, plus manifestante et qui s'est fait réprimer durement. Et donc je me disais, mais pour la génération qui vient, qu'est-ce qu'il leur reste ? S'ils voient que l'exemplarité n'a pas été payée de retour, que le combat, d'ailleurs auquel ils ne se joignent plus, hein, ça c'était mon constat au moment des Gilets jaunes, c'est-à-dire que les jeunes gens de banlieue ne se sont pas joints aux Gilets jaunes, pour beaucoup, donc... Ce combat qu'ils avaient l'impression de ne plus avoir à mener parce qu'il ne mènerait nulle part, je me dis, qu'est-ce qu'il leur reste ? Et en fin de parcours, je me dis, ce qu'il leur reste, c'est de comprendre que, ou de faire comprendre que la lutte, elle venait de tous. C'est le courage qu'ils devraient aller chercher, c'est un courage qu'on allait devoir aussi comment dire, ils ne pourront pas s'en sortir seuls si tout le monde ne s'y met pas aussi avec. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un mouvement généralisé de leur donner ce courage-là de continuer. Le courage, c'est ce que je dis, c'est le contraire de la rage. Le courage, c'est la capacité de faire face. C'est un tout, c'est la société qui doit l'offrir, cette confiance-là. On ne peut pas l'arracher constamment par soi-même. Ce que je veux dire, c'est on les a renvoyés en leur disant mais passez à autre chose. Cessons d'aborder ce sujet, passons à autre chose. Et pour que ces jeunes gens puissent passer à autre chose, il faut qu'on leur donne la capacité de les entendre et d'entendre leur parcours.
Vous dites qu'écrire, c'est pratiquer un acte de chirurgie réparatrice. En lisant cette formulation, j'ai repensé à une interview que l'historien Patrick Bourchon avait donnée en 2019, où il parlait d'un livre d'Émilie Noteris qui s'appelle « La fiction réparatrice ». Où elle part de l'art japonais du kintsugi. Et il dit à cette occasion, la réparation est un enrichissement, du fait même qu'elle rend visible l'histoire de ces accidents, ce qui est essentiel avec cette poétique, qui est aussi une politique de mise au présent, c'est qu'elle laisse chacun tisser et retisser, tout en exposant les brisures, c'est-à-dire les cicatrices. Mais attention, on ne colmate rien, ce n'est pas une histoire lisse que l'on donne à voir, plutôt la chronique de nos fissures. Et j'aime beaucoup cette expression de la chronique de nos fissures et je me suis demandé si vous estimiez que Sensible constituait une telle chronique.
Mais en tout cas, il est conçu de cette manière-là. Il est vraiment conçu sous la forme de la chronique, c'est-à-dire qu'il y a des textes... En fait, il est conçu... de manière un peu impressionniste, comme un puzzle. Il y a des textes biographiques, il y a des textes historiques, il y a des textes sociologiques, il y a des textes poétiques qui s'enchaînent les uns après les autres, mais sans que le fil rouge soit forcément apparent. C'est-à-dire que le fil n'apparaît qu'à rebours, en fait. On s'attend pas, quand on passe d'un texte à un autre, on s'attend pas à ce qui vient. On ne sait pas ce qui va arriver. On n'est jamais prévenu de la suite. Et l'idée, c'est que c'est les chroniques de mes lectures aussi. Et l'idée, c'est de faire apparaître à la fin, quand ce puzzle a été reconstitué, qu'on ait une image générale de l'histoire des 60 dernières années ou plus.
Avec les cicatrices apparentes, même oui, si oui. Ça constitue un tout. Oui, tout à fait. J'aimerais ouvrir les questions au public, pour si jamais vous avez des interrogations, des remarques, des commentaires à adresser à Nejma Kassimi. Il y a un micro qui va circuler.
Si vous voulez, je peux lire un extrait du texte. Je pourrais lire Turam. Hein ? Dans cet extrait, j'explique comment le texte m'est venu, mais alors comme j'ai pas de... Ah, il est là. J'imagine deux interviews, en fait. Le premier, que j'appelle interview 1, on me demande, Nejma Kassimi, vous venez de publier aux éditions C'est pas demain la veille, et c'est déjà votre texte fait polémique. Alors, avant d'y répondre, deux mots sur votre travail. Nous vous suivons sur les pas de votre enfance, et pourtant, il ne s'agit pas de biographie. Oui, ça, c'est très important. Je raconte... beaucoup d'anecdotes de ma vie. Et évidemment, c'est biographique, évidemment, c'est mon matériau, mais ma vie n'a aucune importance dans l'histoire. Enfin, c'est parce que je la connais qu'elle est accessible. C'est juste ce qui va me permettre d'exemplifier et de tenir mon propos. C'est évidemment pas une biographie. Est-ce une fable ? Assurément non. Est-ce un essai ? Sous certains aspects, bien sûr. Cependant, il semble qu'il y ait des aspects historiques, on dirait, à vous lire. Mais est-ce bien ce que vous dites ? Mon travail ? En aucun cas, il ne s'agit d'un travail. Quand on travaille, on fait des pauses. À 10h, paf, une petite pause, puis la pause de midi, la pause pipi, la pause clope pour ceux qui fument, la pause thé au gingembre pour ceux qui gingembrent. Et puis les pauses week-end et les congés aussi. Sauf que moi, je n'ai eu droit à aucune pause, rien. Au prud'homme, ils prendraient cher les salopards. Hein. Pas de pause, même la nuit. Oui, même la nuit, j'ai dû me relever pour un mot. Parce que quand ça vous prend, c'est que c'est mûr. Pas le droit de laisser moisir, ça se fait pas. On laisse pas perdre la nourriture, c'est tout. C'est une question de bon sens et d'honneur. Et là, ça maturette partout. Donc là, je développe une métaphore du verger où les fruits sont mûrs et que j'ai plus qu'à cueillir les histoires qui me tombent dans le panier les uns après les autres. Et quand un beau matin, le verger vous attend, alors vous n'avez pas le droit de vous reposer. Vite le panier et l'escabeau, vite les pots de confiture. Ça, c'est le premier interview. Et un deuxième texte, il s'appelle Interview 2, que je vais lire intégralement. Bien. Mais pour répondre à ma question, ce texte, c'est quoi ? Un essai ? Comment le qualifier ? Bon, la métaphore du verger ne vous a apparemment rien évoqué. En voici une autre qui vous parlera peut-être plus. Ce texte, c'est le doublé de Lilian Thuram en 1998. Tiens donc, quel rapport ? Le 8 juillet 1998, la France est en demi-finale de la Coupe du Monde de football. Elle joue sur son terrain. Elle joue en France. Elle joue son honneur. Mais le match France-Croatie se passe mal. Une mi-temps au score nul. La pause est sordide. Ça gueule dans les vestiaires. C'est le verger pourri, les fruits piqués des verres. Et en début de deuxième mi-temps, les choses empirent. Un but pour la Croatie. Ah bah merci le défenseur, ah vraiment merci. Putain, on peut compter sur toi. C'est l'enfer de la réussite qui passe sous le nez. C'est à se cogner la tête contre les murs. Merde ! Ne sois pas grossière. Mais l'enfer a ses bienfaits, parfois. Il crée le désespoir, qui dégage une énergie folle. Et cette énergie produit des miracles. Le défenseur est désespéré, il va inventer l'espoir. Il va le créer de toutes pièces, à partir de rien, à partir d'un but improbable. Le défenseur marque. C'est le premier but de Thuram. C'est le verger en fleurs. C'est le bonheur de l'espoir retrouvé. Mais ça n'est pas suffisant. Pour qualifier la France au final, il faut gagner. Il faut marquer encore. Il faut croire à la folie du premier geste et le répliquer. C'est impossible, mais c'est indispensable. Et quand ça vous prend et que c'est mûr, on n'a pas le droit de laisser passer. Thuram le sait. Et Thuram le fait. Deuxième but du défenseur, la France est qualifiée. Vous ne comprenez toujours pas ? Vous ne comprenez pas que Thuram n'est qu'un défenseur ? Il n'est pas là pour marquer des buts. Il n'est pas là pour faire gagner. Il n'est pas celui qui offre les victoires. Il est celui qui doit éviter l'échec. Il est là pour éviter de perdre. Il est en défense. Et il a failli. Il a merdé. Il va être à l'origine du déshonneur. Il va être celui par qui la France a perdu. Et ça n'est pas possible. Ça n'est plus possible. Ça n'est pas envisageable. Ça n'est pas vivable. Il n'y survivra pas. Il ne restera pas en défense. C'est fini, la défense. Merde à la défense. Il va remonter le terrain. Il va quitter sa place et monter. Il va quitter sa place et regagner son honneur. Il va offrir à la France ce qu'elle attend. De tous, sauf de lui. Il va offrir le chemin de la victoire. Il va lui offrir la liesse d'un bonheur possible. Voilà le doublé légendaire de Thuram. Analyse intéressante, mais au regard de votre texte, eh bien ce texte, c'est le doublé de Thuram. Et donc, pour voilà, l'idée, c'est de développer sur le fait que il n'y a pas de solution, il faut y aller. Et quand c'est perdu d'avance, il y a des choses encore à offrir. Et avec ce texte, j'avais la sensation de jouer un va-tout, c'est-à-dire de retrousser mes manches. J'ai eu vraiment cette sensation-là de me dire, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux offrir d'autre à cette jeunesse sans voix, si ce n'est de lui donner sa place et de lui donner une voix.
Quand le texte arrive dans ses derniers chapitres, au-delà du fait qu'on n'ait pas vraiment envie que ça s'arrête, j'ai l'impression que vous semez des choses peut-être pour d'autres textes possibles. Oui, il y a des moments un peu sibyllins que j'ai trouvé extrêmement touchants et je me suis demandé si vous aviez d'autres textes en travail dans la continuité de celui-ci.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai écrit Sensible, j'avais la sensation que je pouvais écrire toute ma vie sur le sujet. C'est-à-dire que c'était un sujet que je n'avais pas voulu aborder pendant 30 ans, dont j'ai voulu me tenir le plus possible à l'écart. Et que quand je m'y suis mise, je disais à Melchior, mon mari, je lui disais, mais je vais écrire jusqu'à ma mort. Parce qu'à la fin, tout me ramenait à ce sujet. Je regardais un film, je lisais un livre, quoi que ce soit me ramenait à ce thème. Et j'avais l'impression que c'était sans fin. Et je me suis dit, mais il faut faire une pause. Et donc j'ai décidé d'arrêter là où je m'en suis tenue. Ne sachant pas si ce texte serait édité, évidemment, et avec le soupçon qu'il ne le serait sûrement pas, ou peut-être pas. Et puis j'ai commencé à essayer de le soumettre aux éditeurs, et pendant ce temps, je continuais à écrire, donc les textes s'amoncelaient pendant. Et puis j'ai cessé. Je me suis dit, c'est pas possible, parce que si je ne trouve pas éditeur, je vais avoir des milliers de pages qui vont remplir mes tiroirs, et ça va être un désespoir. Et je dois remercier au passage Cambourakis, qui a vraiment eu le courage, la sensibilité d'éditer ce texte. Beaucoup d'éditeurs m'ont réécrit en me disant qu'ils l'avaient aimé. Certains m'ont dit on aime beaucoup, mais on n'édite que de la littérature. Donc j'étais un peu perplexe. J'avais envie de leur dire, donc, qu'est-ce que la littérature ? D'autres m'ont dit qu'ils n'éditaient que des essais. Et donc, comme c'est un texte qui n'est pas dans son format facile à placer, est-ce que c'est un récit ? Est-ce que c'est un essai ? Est-ce que c'est une autobiographie ? Est-ce que c'est une biographie ? Du coup, ça le rendait difficilement éditable. Donc, j'ai continué à écrire. À l'époque, quand j'ai commencé à travailler avec Cambourakis, j'ai rajouté des textes qui n'étaient pas dans le manuscrit initial. Par exemple, j'ai dit que je n'avais pas touché à l'ordre, mais quand même, j'ai rajouté le texte sur Isabelle Adjani, qui me paraissait important. Et j'ai rajouté un texte sur le courage de la courge, qui s'appelle Le courage de la courge, où cette fois j'ai une perspective un peu plus politique, où je m'adresse à la jeunesse et j'explique le parcours politique et l'engagement politique qui est envisageable ou qui était envisagé, c'est-à-dire de s'investir dans cette thématique-là.
Il y a une autre question que je me suis posée, c'est est-ce que ce texte a été lu à des jeunes, dans des collèges ou dans des lycées, peut-être plus, soit chez vous à Zurich, soit ici en France?
Alors ça, c'est mon grand désespoir. Parce que je pense que le texte, je m'adresse à la jeunesse et je ne suis pas certaine que la jeunesse à qui je m'adresse est en mesure de lire ce texte. Donc il y a un grand paradoxe là-dedans. C'est-à-dire que il faut un accompagnement, il faut des explications, et je n'ai pas eu encore cette occasion de partager ce texte avec des jeunes gens. La seule occasion que j'ai eue, elle était merveilleuse. Je suis allée au Festival de littérature de Bordeaux, et donc j'étais dans le train le Paris-Bordeaux, et il y a un jeune homme qui s'assied à côté de moi. Qui avait Rasta, la musique sur son téléphone à fond, enfin vraiment tous les et il s'installe à côté de moi, on est dans le train et je me pose la question, est-ce que je lui dis que bon peut-être il faut écouter sa musique au casque, comment je l'aborde, et je commence par l'aborder en lui disant qu'est-ce que tu écoutes comme musique. Et on parle musique. Je lui partage le fait que ma fille, qui fait du rap, a écrit une chanson d'ailleurs. C'est dans l'édition de poche, c'est signifié. Elle a écrit une chanson sur Sensible. On peut le trouver sur Spotify. Et donc je lui fais écouter cette chanson au casque. Parce que moi j'ai un casque et je lui fais écouter au casque. Et on commence à discuter. Et je ne sais plus, le Paris-Bordeaux, c'est 3 heures de train, je ne sais plus. J'ai sorti mon livre et j'ai commencé à lui lire Sensible. Et c'était un moment d'une beauté. Et voilà, c'est la seule occasion où j'ai pu me rendre compte que ce texte lui parlait, donc, que je ne l'avais pas écrit en vain et qu'il faudrait que j'aie des occasions de le partager plus régulièrement. C'était un moment très très beau et quand on s'est quitté à Bordeaux, je lui ai dit viens au stand, je t'offrirai un exemplaire. Il n'est pas venu, j'en étais désespérée. Je ne sais pas si vous voyez, si vous connaissez Bordeaux, mais le festival a lieu dans un endroit qui est particulièrement... c'est sous chapiteau, mais c'est un petit peu exclusif en fait. Il y a une place qui est un peu plus populaire, mais là où les chapiteaux sont situés, c'est un peu zone protégée, intellectuelle, etc. Et j'ai compris quand je suis arrivée là qu'il viendrait jamais, que c'était pas son monde, qu'il pouvait pas pénétrer là. J'en étais très très triste. Donc il est pas venu chercher son exemplaire. En revanche, il m'a offert ce moment de partage et j'ai reçu ensuite un petit message qui me disait « Prends soin de toi ». J'ai trouvé ça magnifique de recevoir de sa part ce message-là. Voilà ce que je voulais partager. Si vous avez des questions... Oui ?
C'était pas tant une question, mais plus une remarque assez personnelle sur ce que vous dites au niveau du rapport à soi, de ses origines. Pour ma part, je n'ai aucun rapport avec l'Algérie, dans mes origines, que ce soit du côté étranger comme du côté français, aucun rapport avec la personnalité appelée. Et je me retrouve beaucoup quand même dans ce que vous dites sur le moment où vous dites que vous n'avez pas toujours eu conscience d'être arabe, comme vous le dites, et que c'est venu et que ça vous a frappé, notamment quand le professeur vous a interpellé. Et je m'y retrouve parce que moi aussi j'ai vécu dans une sorte de bulle, on va dire, française, et où je ne me suis jamais vraiment rendu compte de différence, à part mon nom de famille, mon prénom, mais voilà, et c'est en grandissant, mais c'est vrai, on m'interpelle sur certaines questions auxquelles j'ai pas forcément des réponses, mais dont les gens sont persuadés que j'ai des réponses, sur des... Et je trouve ça... Moi, ça me remue beaucoup d'entendre tous vos questionnements, d'entendre ces mots, d'entendre... Alors que c'est pas mon histoire, mais ça remue beaucoup de choses, et du coup, je voudrais vous remercier.
Merci beaucoup. Oui, c'est forcément. Alors, je raconte dans le texte que comme je viens d'une petite ville de province, 10 000 habitants, maman professeur au collège, mon papa travaillait. Alors, il était auxiliaire anesthésiste. Il travaillait au bloc opératoire, donc les gens le connaissaient. Voilà, tout le monde, on se connaissait tous, et j'ai jamais été sentie que j'étais envisagée comme d'origine algérienne ou quoi que ce soit. Enfin, c'était pas un sujet dans mon enfance. Et c'est quand je quitte cette petite ville, quand je vais dans le grand monde, quand je vais à Lyon, puis Paris, etc., que je découvre que je suis vue sous ce prisme-là. Alors que ça me dépasse complètement. Moi, je suis une gamine de province, d'un petit bled de province. Enfin, j'ai fait du vélo dans la campagne. Enfin, j'ai eu la même enfance que tout le monde. Et c'est Rachida Brahim, dont l'ouvrage est en vitrine, qui a écrit un texte qui s'appelle « La race tue deux fois » et qui, dans un podcast avec Rokhaya Diallo, le podcast « Kif Taras », elle explique qu'en fait, on est toujours envisagé, elle a une formule magnifique, elle dit « les gens savent de nous quelque chose qu'on ne sait pas ». Et c'est ça, être envisagé sous un prisme qui n'est pas le nôtre. C'est-à-dire qu'il présuppose qu'on connaît, les gens présupposent que je connais l'Algérie. Jusqu'à l'âge de 18 ans, je n'y ai jamais mis les pieds. On n'avait pas de famille en Algérie. J'avais aucun contact avec l'Algérie. Ma mère avait un sarouel et il y avait un pouf à la maison. Et mon père nous parlait très peu de l'Algérie. Donc, c'était pas un sujet à la maison. Mais les gens présupposent des choses et ne nous envisagent que sous ce prisme-là. Et c'est ça qui est très perturbant, en fait. C'est d'avoir à rétablir une image de nous-mêmes. On ne sait même pas ce que les gens plaquent sur nous. On n'a pas d'idée quelles sont leurs fantaisies, leurs fantasmes. C'est ce que je disais, c'est en quittant la France, il suffisait que je dise que je suis française, je parlais français, donc on me croyait. L'anecdote qui est pour moi la plus parlante, je vivais au Mozambique. Je ne sais pas si vous voyez, le Mozambique, c'est un pays en Afrique de l'Est, un pays tout en longueur, pris entre l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Et j'habitais tout au nord du Mozambique, vraiment dans... Voilà, en brousse quasiment, une petite ville. Et les gens m'appelaient la Française, la maison de la Française, parce qu'on parlait français à la maison. C'est un pays lusophone, c'est un pays où on parle, qui était colonisé par les Portugais. Et donc les gens disaient la maison, quand ils se référaient à moi, ils disaient la maison de la Française, et on parlait de moi de cette manière-là. Et un jour, je croise une expatriée de passage, Églantine, qui me dit « Ah, mais c'est toi la Française !» Ah, avec un nom pareil, vraiment, je ne pouvais pas penser à toi. Et je me dis « Mais je suis à des milliers de kilomètres de la France, et la seule qui remet en question le fait qu'on m'appelle la Française, c'est elle. » C'est-à-dire que personne ne l'avait mis en question à ce moment-là. Et c'est ça le nœud, en fait, et ça la blessure. C'est qu'on ne nous croit pas. On ne nous croit pas sur parole quand on affirme notre identité, quand on dit qui on est. Il y a un doute qui plane. Et il y a des justificatifs qui doivent être apportés. Merci. Et je finis d'ailleurs le texte sur la rencontre avec Melchior, donc qui est quand je le rencontre à Paris, il est suisse, il est germanophone, il vient de Bâle, il a un français, voilà, c'est une langue apprise, c'est une langue apprise à l'école, et je raconte que c'est cette découverte que je vais vivre avec lui, de ne pas être envisagée sous aucun a priori. Peut-être je peux lire le passage. Alors, quasiment le dernier texte. Nejma, c'est un roman. C'est le roman algérien de langue française. La référence majeure de la littérature algérienne publiée pendant la guerre d'Algérie. Nejma est belle et jeune. Elle est née de père inconnu et d'une mère française. Courtisée par quatre hommes, elle bouillonne d'une révolte superbe et tragique à l'image même d'une Algérie à la fois jeune et âgée, musulmane et païenne, savante et sauvage. À la lecture de la quatrième de couverture, on se lancerait dans Nejma sans crainte particulière. Or, Nejma est complexe, un roman ardu, aride. Aucun risque que j'en fasse une exégèse, jamais de la vie, parce qu'il y a des romans dont on ose à peine s'approcher. Ulysse de Joyce, Le bruit et la fureur de Faulkner et Nejma de Kateb Yassine. Nejma, c'est un monument, une œuvre difficile, au contexte incompréhensible, l'Algérie. Et comme elle, comme l'Algérie, Nejma est un fardeau, un poids. Un mystère sur lequel il faudra bien se pencher un jour, Nejma ou la procrastination. Car je n'ai ouvert le volet Nejma que tard, bien tard dans ma vie. Le jour où, quittant l'île aux enfants, ce que j'appelle l'île aux enfants, c'est la petite ville de province où j'habitais, j'entre dans le grand monde. Le jour où Dima, c'était mon surnom d'enfant, redevient Nejma. Nejma, ce prénom sublime, se révèle une charge, un poids, un traçage. Dire « je m'appelle Nejma », c'est lancer une série de réactions en chaîne, prévisibles, lassantes, voire idiotes. « Oh là là, c'est difficile comme prénom, hein, on t'appellera Marie. » Et joignons le nom à la parole, le personnel du service hospitalier dans lequel je fais le ménage durant l'été s'époumonne « Marie ! Marie !» Nejma, c'est l'incipit d'un interrogatoire, la déclinaison d'un livret de famille. Nejma, on ne s'en souviendra pas, trop compliqué, aride à prononcer, trois consonnes qui se marient pas, qui jurent, ça va pas être possible. Et pourtant, je rencontre un homme qui semble ne pas s'en émouvoir, au contraire, qui s'en émeut, joliment, avec un étonnement gracieux et une exclamation à l'accent germanique. Nejma, comme le roman de Kateb Yassine ? J'en suis éblouie. C'est la première fois que cela m'arrive. J'ai 22 ans, c'est la première fois qu'une personne reconnaît Nejma, son origine, son aura, son doux froufrou, sa force, son scintillement, sa beauté, sa fragilité. C'est la première fois que l'on s'incline devant l'éclat de ce nom, la première fois que l'on évoque ce roman algérien avec humilité et gourmandise. Et ce moment m'est offert par un homme au français riche et timide. Et ce moment m'est offert par Melchior, qui se fout bien de savoir le pourquoi du comment de ce prénom-là. Un homme qui ne sourit pas d'un air entendu au mot Algérie, qui ne présume rien à l'évocation de l'Algérie, mais qui goûte le plaisir d'un récit sans a priori. Et qui sait, sans doute aucun, que l'on peut être française et s'appeler Nejma. Voilà, donc je clôt le texte sur cette révélation-là, en fait, sur ce cadeau.
C'était Rencontre avec Nejma Kassimi autour de son livre Sensible, paru aux éditions Cambourakis. Thank you.
Radio Livre d'Armand.